Vous suivez Priorité Santé avec le groupe Sounou, présent dans 17 pays, qui depuis 25 ans met le client au centre de tout.
Priorité Santé, pour nous les femmes.
Notre santé d'abord.
C'est notre priorité. Oui à la santé, non au tabou.
Priorité Santé, question de femmes.
Raphaël Constant.
Bonjour et bienvenue dans Priorité Santé. Ravie de vous retrouver pour une émission de santé au féminin. Aujourd'hui, question de femmes sur les écrans et les enfants. Donner un biberon en regardant ses derniers messages sur son portable, laisser la télévision allumée dans le salon en bruit de fond, utiliser sa tablette pour lire une histoire à son enfant le soir. Dans nos sociétés des écrans, ces usages sont quotidiens. Et pourtant, personnel de santé et personnel éducatif s'alarment des conséquences sur la santé des tout-petits. En effet, nombreux sont les enfants qui, avant même d'avoir une bonne maîtrise de la parole, se retrouvent devant des dessins animés, des jeux vidéo ou savent déverrouiller le portable de leurs parents. Mais en captant leur attention, les écrans les privent des interactions humaines et de la découverte sensorielle du monde indispensable au développement du cerveau. Alors, quelles conséquences de l'exposition aux écrans sur la santé des enfants? Quel impact sur leur comportement, leur sommeil, leur concentration? Comment fixer des limites et apprendre à remplacer les outils numériques? Aujourd'hui, les auditrices prennent la parole. Et pour vous répondre, mesdames, on retrouve Dr Mam Aïta Seck en ligne du Sénégal. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes pédiatre, médecin capitaine et assistante des hôpitaux des armées de l'hôpital principal de Dakar.
Notre santé, si on en parlait.
Pourquoi tu aimes prendre mon téléphone à chaque fois qu'on se retrouve?
Parce que sur le téléphone, il y a des dessins animés, tu vois, il y a des émissions, des films. Mais... Et le téléphone, même quand il est déchargé, je peux le brancher et continuer à garder.
Je t'ai dit que ça, c'est dangereux, c'est pas bon de le faire.
C'est pour ça que je le pose, je mets une compilation, je le pose et j'attends.
Je t'ai dit aussi que les écrans de téléphone ne sont pas bons pour les yeux. C'est pas bien pour toi, pour ton âge.
Mais s'il faut, je mettrai mes lunettes.
C'est pas ça la question. Moi, je préfère que tu ne touches plus à mon téléphone. Mais à chaque fois que je te demande de ne pas toucher à mon téléphone, tu penses que c'est pour une punition. Parce que je te dis, je ne veux pas que tu prennes mon téléphone. Et toi, tout de suite, tu me dis, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que tu m'es puni? Mais ça, la question n'est pas là.
Mais c'est vrai, quoi. Quand même, il y a des enfants, c'est leur punition, ça.
Mais...
Et moi, je considère ça comme ça.
Non, c'est parce que les écrans ne sont pas bons pour les enfants. Et qu'est-ce que tu me dis encore? Quand on se voit, c'est mon téléphone que tu aimes et pas moi.
Désolée, mais je t'aime 1000 fois plus que ton téléphone.
Ça, je le sais. Mais je te dis à chaque fois pour que tu te décourages parce que... Tout moment que nous nous retrouvons...
Mais comme là... je sais que tu dis pas vraiment ça pour de vrai, c'est pour ça que je le prends pas au sérieux. J'ai 10 ans, maman. Je suis grande. Je comprends tout ça.
Mais moi, je n'aime pas quand tu prends le téléphone.
J'essaierai de le prendre, moi.
D'accord.
Déjà, beaucoup d'éléments dans cette note vocale envoyée sur le répondeur de l'émission par Anissa et sa fille de Côte d'Ivoire. Docteur Mam Aïta Seck, on comprend bien dans ce premier message l'attrait des enfants, parfois obsessionnels pour leurs écrans, qui peuvent d'ailleurs aussi être utilisés comme récompense ou punition par les parents, on va en parler. Mais d'abord, est-ce qu'en consultation, ce sujet des écrans et leurs conséquences sur la santé des petits revient souvent? Est-ce que les parents en ont conscience? Qu'est-ce que vous constatez à Dakar?
En fait, effectivement, c'est un problème assez récurrent qu'on rencontre dans nos consultations. C'est des mamans qui se plaignent souvent des enfants qui ne sont pas très attentionnés, avec qui ils n'ont pas beaucoup d'échanges parce qu'ils sont presque toute la journée sur leur téléphone. Et ça, ça les marque. Donc du coup, ils essaient de chercher des solutions à travers nous et on essaie de leur faire comprendre qu'il faut surtout d'abord parler à l'enfant. Lui expliquer c'est quoi les conséquences de cet abus des écrans et sur elle et sur leur relation. Donc les enfants, ils comprennent tout. Quand on leur explique, ils comprennent. Donc nous, c'est à travers ce moyen qu'on insiste surtout pour que les enfants comprennent le danger qu'il y a à être tout le temps sur leur téléphone.
Et alors, quelles conséquences de cette exposition, du coup, vous remarquez ?
Il y en a beaucoup, hein, surtout dans beaucoup de domaines. Donc d'abord, comme je l'ai dit tantôt, sur les relations interhumaines, intrafamiliales. Parce que, voilà, si, par exemple, les enfants descendent de l'école, ils n'ont pas vu leurs parents ni leurs sœurs de toute la journée. Donc, au lieu de profiter de ce moment de rassemblement, on constate que chacun est sur son téléphone, en train de voir peut-être certaines applications, de voir les messages auxquels ils n'ont pas pu répondre quand ils étaient à l'école. Donc, tout ça, c'est du temps perdu, disons, à renforcer les liens intrafamiliaux.
Et est-ce que vous avez constaté directement sur les enfants des effets sur peut-être leur communication, leur sociabilité ? Je parlais aussi du sommeil en introduction.
Oui, déjà par rapport au langage, parfois on se rend compte que beaucoup d'enfants n'arrivent pas à s'exprimer correctement par rapport à leur âge. Donc déjà le langage, on se rend compte que ça commence vers l'âge de 1 an, peut-être même parfois un peu plus tôt, vers 10 mois, ils commencent à dire quelques petits mots. Mais parfois, on voit des enfants qui ont peut-être plus de 2 ans ou plus de 3 ans et qui n'arrivent pas à faire, par exemple, quelques petites phrases. Alors que par contre, ils arrivent à répéter peut-être les répliques qu'ils ont entendues sur un dessin animé, voilà, ou à parler même une autre langue que celle qu'on parle à la maison. Parce que nous, par exemple, s'ils regardent des dessins animés en français ou en anglais, ils arrivent à compter en français ou en anglais, alors que dans la maison, peut-être les gens ne comprennent pas peut-être l'anglais ou le français. Donc là, déjà, ça constitue une première barrière de communication avec l'entourage. Sur le sommeil aussi, comme vous l'avez si bien dit, ça a un gros impact. Parce qu'on a des enfants qui restent plusieurs heures devant l'écran, au détriment de leur temps de sommeil.
Et en fait, les écrans stimulent le cerveau, c'est ça, et retardent l'endormissement des petits ?
C'est exactement ça. Le cerveau, il envoie de petits signaux au corps pour lui dire que c'est l'heure de dormir. Par exemple, les yeux qui piquent, le fait de bâiller ou avoir le corps qui se détend un peu. Donc ça, c'est les signaux que le cerveau envoie au corps pour lui dire que voilà, c'est l'heure de dormir. Maintenant, ces signaux sont un peu, disons, brouillé quand on est devant l'écran, parce que le cerveau, il est stimulé par autre chose, par ce qu'il voit. Donc du coup, ces signaux ne sont pas envoyés, donc du coup, l'enfant ne se sent pas dans l'obligation de dormir.
Et on sait depuis plusieurs années que les écrans ont aussi des conséquences et créent des problèmes de comportement sur les petits.
C'est ça. Ça révèle de petits troubles du comportement, hein. Parce qu'après, tout dépend du contenu de ce qu'ils regardent, en fait. Les garçons, disons, ils ont plus tendance à regarder des jeux vidéo, des jeux de combat. Parce que les jeux vidéo avec des combats, c'est surtout des scènes de violence qu'ils font. Et ça, ils ont tendance à le reporter sur le monde réel, alors que c'est diamétralement opposé.
Et alors, pour bien comprendre, ça veut dire que quand l'enfant est petit, vraiment tout petit, le cerveau est en formation, donc il faut mieux plutôt le stimuler, l'aider à interpréter plutôt que le mettre devant un écran qui va faire ce travail pour lui, finalement.
C'est ça. Donc, ce que l'image de l'écran lui montre, ce n'est pas la même chose que ce qu'il a en réalité. Et il n'y a pas mieux d'apprendre à partir de ce qu'on a sous les yeux.
La vraie vie.
Dans la vraie vie, exactement.
Allez, tout de suite, c'est notre palabre au féminin. Et cette semaine, Charlie Dupiau a rencontré des femmes dans le 18e arrondissement de Paris. Elles sont deux autour du micro, José, 61 ans, et Elisabeth, 34 ans. C'est elle qui ouvre la discussion.
Au début, j'étais tout seul avec mon fils. Il a 7 ans. Au début, moi, je croyais que je lui donnais l'écran pour qu'il puisse me laisser en paix. Après le boulot, fatigué. Et je ne voulais pas qu'il m'embête beaucoup. Ça me donnait un peu du temps libre et je vais me reposer. Et à chaque fois que je lui donnais le téléphone pour qu'il me laisse, j'étais en train de lui faire du mal, je ne savais pas. Parce que là, avec l'écran, ça l'a beaucoup mis en retard. À propos de langage, ça l'a mis en retard. Il a commencé à parler, on va dire qu'à partir de 5 ans. Ouais, parce que moi, je n'avais pas le temps de communiquer avec lui. Il fallait que, le rêve que j'ai fait, il fallait que moi, je communique beaucoup avec lui ou bien de jouer avec lui. Peut-être c'est ça qui pourrait l'aider à développer de langage.
Oui. J'aimerais vous poser une question. Comme vous dites là, vous lui avez donné l'écran. C'est à partir de quel âge que vous lui avez laissé l'écran?
Je vais dire à partir de 1 an et demi, 2 ans. Ah oui. Ça veut dire que si je fais un autre enfant, là, l'erreur que j'ai faite, je ne vais pas faire à son frère ou à sa soeur.
Il y a eu un impact négatif au niveau de l'école. Est-ce qu'il donne de bons résultats ou pas?
Oui, mais une fois maintenant que là, il a commencé à avoir l'orthophoniste, parce qu'il ne parlait pas très bien. Et là, il a commencé maintenant à évoluer très bien à l'école, mais au début, non.
Et là, il est en quelle classe?
C'est maintenant, on va dire Dieu merci, ça va. Il a commencé à rattraper son retard.
Et vous, José, alors vous aussi, vous êtes maman, mais de plus grands enfants. Comment ça s'est passé pour vous, des écrans?
Quand j'étais jeune maman, il y avait l'écran. Les téléphones portables, oui, à l'époque, il n'y en avait pas tellement. C'est un des avantages qu'on avait à l'époque. Je ne privilégiais pas la télé pour les enfants. Moi, c'était plus la lecture, les jeux des sociétés. Et c'est ce que j'ai transmis à mes enfants quand ils étaient jeunes, en bas âge. C'était plus des jeux de société entre eux. Et même avec mes petits-enfants, je sais que je ne suis pas dans leur éducation directement, mais je vois ce que ma fille essaie de faire. Elle donne moins de télé à sa fille. C'est plus beaucoup de lecture, même à son fils qui a 3 ans. Et ils ont cette manie-là, la lecture, le dessin, ceci, mais l'écran, en tout cas, pas tout à fait, parce que c'est là, ça abrutit les enfants, ce n'est pas bien, les écrans.
Et vous, Elisabeth, ça, vous ne saviez pas, en fait, personne ne vous a dit que
non,
c'était pas bien?
Non, quand je partais au travail, je lui laissais à la crèche, mais après la crèche, quand on venait à peu près, lui donner son bain, lui donner à manger, je lui donnais directement l'écran. Et là, il partait pour voir ses dessins animés.
Sur le téléphone?
Oui, sur mon téléphone. Même là maintenant, parce que là, comme je connais maintenant, même quand il est quitté à l'école, il m'a demandé s'il peut regarder la télé. J'ai dit non, va prendre tes jouets, il faut jouer, il faut faire tout ce que tu as envie de faire par l'écran. Le téléphone, quand même, c'est interdit pour lui. Peut-être de temps en temps, on peut lui laisser pour au moins 1 heure. On lui donne 1 heure, après les 1 heure, et là, il dépose. Je ne dis pas qu'il ne regarde pas la télé, mais pas maintenant comme avant. Là, ça a diminué. C'était un combat que j'ai décidé de faire avec lui. Et peut-être qu'il est en train de réussir, je ne sais pas.
Moi, j'ai une question pour vous. Comme vous interdisez, maintenant que vous interdisez la télé, les téléphones et les écrans, est-ce que vous croyez qu'il s'adapte facilement? Comment ça se passe avec lui?
Maintenant, ça va. Avant, quand tu lui disais qu'il n'y a pas de télé ou bien il n'y a pas de téléphone, il pourrait faire des crises, pleurer. Ça n'a pas été facile parce que personne ne veut voir son enfant pleurer. Quand tu le vois pleurer, ça te fait mal. Tu crois que oui, de lui donner directement, c'est la solution, mais non. Tu lui fais du mal, tu lui fais vraiment du mal. Mais là, maintenant, j'ai compris la leçon et je vois que même s'il pleure, je dis ça va passer. Mais maintenant, il a bien compris qu'une fois qu'il demande, il dit non, c'est non. Et il part récupérer ses jouets et commence à jouer avec ses jouets.
Témoignage recueilli par notre reporter Charlie Dupiot à Paris. Docteur Mam Aïtasek, est-ce que vous voulez réagir à ce que l'on vient d'entendre?
Oui, en fait, déjà, je commencerai par féliciter la dame, parce qu'on a vu vraiment les efforts qu'elle a fait pour diminuer les écrans chez son enfant. Le challenge, c'est vraiment cela, parce que là, on est à l'ère du numérique et des nouvelles technologies, donc c'est difficile vraiment de se séparer de ces outils-là. Donc, l'important, c'est vraiment de comprendre les enjeux et de faire le nécessaire pour renverser un peu la situation. Donc pour ça, je la félicite. Donc le deuxième point, c'est qu'effectivement, elle a exposé trop tôt son enfant aux écrans. Parce qu'elle a dit vers l'âge de 1 an ou 2 ans. Parce qu'avant 3 ans, les écrans n'ont aucun apport pour l'enfant. Tout ce qu'il peut avoir par les écrans, il l'a déjà autour de lui.
Donc éduquer les enfants, mais aussi éduquer les parents, ça va être aussi tout l'enjeu de cette émission. Notre prochaine auditrice, c'est Marjorie de Libreville au Gabon qui nous a laissé un message sur le répondeur de Priorité Santé.
Bonjour, je suis Marjorie de Libreville. Il y a 3 jours, ma petite voisine a fait une réaction plutôt étrange. Depuis l'âge d'un an, elle est accro à l'écran. C'est ce que sa mère a trouvé comme moyen de la calmer. Là, il fallait toujours lui donner un tout téléphone ou une tablette, c'était ça ou rien. Et du coup, elle est devenue accro. La veille, elle a passé tout son après-midi sur son écran. Et le lendemain matin, comme c'était le week-end, elle s'est réveillée avec le téléphone à la main. Et son visage a commencé à prendre une forme étrange, comme si elle faisait un AVC. Prise de panique, sa maman m'a appelée. Et je lui ai dit, on va aller voir un médecin. Et l'enfant était en train de suffoquer, et c'était étrange. Et là, on a vu un médecin qui nous a posé la question, est-ce que cet enfant est accro aux écrans? Sa maman a répondu oui. Et il a dit que c'est à cause de ça. On a fait un scanner. Et on a dit qu'elle faisait une attaque neurologique. Donc, il fallait vraiment éviter qu'elle touche un écran jusqu'à ce qu'elle voie un neuropédiatre, ce qui n'est pas facile quand on est en Afrique. Et j'aimerais vraiment poser comme question, est-ce que c'est vraiment lié aux écrans, cette réaction-là? Parce que j'ai vraiment paniqué quand j'ai vu la petite fille dans cet état-là. Merci.
Docteur Mam Aitaïsek, on parle clairement des conséquences sur le cerveau, là. Pourquoi l'exposition aux écrans a plus d'impact sur le cerveau d'un petit enfant?
Ce que je peux dire, c'est que les écrans, ça dégage de la lumière. Et on est tous différents par rapport à la sensibilité, par rapport à la lumière. Donc, c'est ce qu'on appelle la photosensibilité. Donc, peut-être que l'enfant a une forte photosensibilité, d'autant plus qu'il est resté toute la journée au téléphone, et qu'elle a peut-être dormi avec, vu qu'elle s'est réveillée avec le téléphone dans la main. Donc effectivement, l'idéal, c'est de voir le neuropédiatre, qu'il fasse des examens un peu plus poussés pour voir si l'attaque neuronale, disons, est vraiment liée à cet écran. Mais je ne saurais pas dire objectivement que c'est vraiment lié, mais on reconnaît qu'il y a une photosensibilité à travers les écrans, notamment certaines images, surtout quand l'enfant est dans une salle sombre et qu'il y a la lumière de l'écran qui prime et qu'il y a des images assez clignotantes qui sont là.
Alors, est-ce que les écrans, peut-être, peuvent laisser des séquelles au long cours sur le cerveau des enfants? Et justement, du coup, quand est-ce qu'il faut s'inquiéter?
Quand est-ce qu'il faut s'inquiéter? C'est quand on voit qu'il y a des difficultés de l'enfant à certaines compétences qui, normalement, devraient être acquises à son âge. Par exemple, c'est quand un enfant il n'est pas très attentionné ou il a des problèmes de concentration, qu'il n'a pas beaucoup de relations sociales ou qu'il a des troubles du sommeil ou du langage. Donc vraiment, c'est les points qui doivent alarmer les parents. Et quand dès qu'ils voient ces signes, qu'ils essaient de voir dans son entourage qu'est-ce qui peut l'expliquer. Et si eux ne sont pas aptes à déceler, qu'ils aillent en consultation avec le médecin, ils pourront faire le point de la situation et en tirer les mesures à prendre.
Alors c'est vous, les auditrices de Priorité Santé, qui faites la programmation musicale du vendredi. Et l'une d'entre vous avait envie de partager avec nous le titre « Le meilleur » de Wilf Enigma sur RFI.
La valeur. Tu es une perle, tu es unique en ton genre. Que tes échecs ne t'amènent à penser que t'es loser. Les pierres précieuses sont prises par le feu pour briller. Tu portes la grandeur, n'en doute pas, ne laisse personne te dire le contraire. Tu as vraiment de la valeur, tu as vraiment de la valeur. Tu portes la grandeur, n'en doute pas, ne laisse personne te dire le contraire. Tu as vraiment de la valeur. Tu as vraiment de la valeur. Même si le temps te fait penser, oui, le contraire. Même si ce qu'ils disent de toi n'est pas parfait. Je peux te le dire, tu
pas loin.
Quand on n'est pas loin.
Le meilleur c'est demain.
Le meilleur c'est demain. Oh, oh, oh.
Qui t'a dit, qui t'a dit, qui t'a dit ça? Qui t'a dit que toi tu ne pourras pas? Qui t'a dit, qui t'a dit, qui t'a dit ça? Ne les écoute pas, va de l'avant. Qui t'a dit, qui t'a dit, qui t'a dit ça? Qui t'a dit que toi tu ne pourras pas? Qui t'a dit, qui t'a dit, qui t'a dit ça? Ne les écoute pas, va de l'avant. N'abandonne pas tous ceux qui briveront du temps. Ne laisse pas la flèche te désarmer. N'abandonne pas tous ceux qui briveront du temps. Ne laisse pas la flèche te désarmer. Même si le temps te fait penser.
Vous écoutez Priorité Santé sur RFI, émission de questions de femmes, et au centre aujourd'hui de celle-ci, les écrans et les enfants. On est en votre compagnie, Dr Mama Itasek, pédiatre et assistante des hôpitaux des armées à l'hôpital principal de Dakar. Et tout de suite, on va partir pour le Congo, à Brazzaville, où on retrouve Lotte. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
J'ai une petite fille de 10 mois, et depuis qu'elle est née, vu que je passe tout le temps devant les écrans, je suis obligée d'être avec elle. J'aimerais savoir si c'est un danger pour elle, vu que c'est un bébé, quoi.
Alors, est-ce que peut-être vous pouvez nous expliquer comment elle passe son temps devant les écrans? C'est-à-dire, quelle consommation il y a à la maison? Quelle exposition?
Elle passe déjà son temps parce que je suis au salon. Et moi, je regarde plus la télé. Donc, je suis obligée d'être avec elle parce que je ne peux pas la laisser seule dans la chambre.
Donc, en fait, la télé est un peu allumée en bruit de fond toute la journée, c'est ça?
Voilà, donc de 7h, parfois jusqu'à 23h.
D'accord. Et est-ce que vous la voyez regarder la télé, du coup, tout le temps, en permanence, ou est-ce qu'elle fait d'autres activités dans la maison?
Elle fait d'autres activités, mais elle regarde quand même. Surtout quand elle est dessin animé, elle est vraiment attentionnée.
Et est-ce que, en dehors du dessin animé, de la télé, comment elle interagit, votre petite fille?
Elle est comme toutes les enfants normales. Hein.
C'est-à-dire qu'elle est avec les autres enfants, avec vous?
Non, elle n'est pas avec les autres enfants parce que je suis plus dans la maison. Donc, elle avec moi, sa sœur ou son papa.
Donc finalement, vous voulez un petit peu savoir, si je comprends bien votre question, Lotte, c'est un peu combien de temps d'exposition est préconisé pour les enfants?
Oui.
Docteur Mama Itasek, je vous redonne la parole.
Donc déjà, je voulais un peu souligner à Lotte, est-ce qu'elle est vraiment obligée d'allumer la télé en fait? Parce que si elle est avec son enfant, pourquoi ne pas jouer avec elle? Ou bien lui acheter des jouets, qu'elle lui met, peut-être qu'elle lui aménage un petit espace où elle pourra jouer même si elle est seule, ou bien qu'elle joue avec elle. Moi, déjà, c'est la première question. Si je peux avoir un élément de réponse.
Lotte, est-ce
déjà que
vous avez entendu la question du docteur?
Oui, j'ai entendu. Je peux le faire. Ça ne me dérange pas. Je peux le faire.
D'accord. Donc, idéalement, moi, c'est ce que je vous conseillerais. Vraiment, allumer le moins possible la télévision. Essayer d'interagir directement avec elle. Sinon, vous lui achetez des jouets. Parce que l'exposition à 10 mois, c'est quand même précoce. Donc, comme je l'ai dit tantôt, les moins de 3 ans, c'est zéro écran normalement.
Alors, du coup, comment on peut doser, docteur Mama Itasek, en fonction de l'âge, comment imposer des limites, du coup, aux enfants, mais aussi à soi, parents?
Donc, comme je l'ai dit, hein, en fonction de la tranche d'âge, il y a un temps maximum d'exposition qu'on recommande de ne pas dépasser. Par exemple, les moins de 3 ans, j'ai dit zéro écran. Pas du tout d'écran de façon idéale. Donc, s'ils ont jusqu'à de 3 à 6 ans, on peut dire, bon, de façon vraiment très exceptionnelle, disons un dessin animé de maximum 10-15 minutes par jour. Mais pas de tablette, pas de smartphone. Seule la télé suffit.
Est-ce qu'il y a d'autres préconisations que vous pouvez faire, peut-être, comme la distance déjà avec l'écran, la hauteur de l'écran? Est-ce que ça, c'est des éléments qui rentrent en compte?
Effectivement, c'est des éléments très importants. Déjà, pour la télé, je pense que ça ne pose pas de souci. Il y a assez de distance faite entre la télé et peut-être les fauteuils et tout. Mais le problème, c'est les smartphones, les téléphones et les tablettes. Donc, il faudra généralement, au minimum, bon, il y en a qui vont jusqu'à 60 cm à 1 mètre, au minimum, quand c'est pour les smartphones, les tablettes.
Lotte, est-ce que vous avez une autre question ?
Non, je voulais juste... j'ai déjà posé ma question. Donc, vu que j'ai déjà la réponse que ce n'est pas bon, surtout pour elle, donc je vais aménager un petit coin dans la chambre et puis commencer plus à passer le temps avec elle sans les...
Sans les écrans, en jouant. Exactement. Ouais. Exactement.
D'accord.
Merci pour votre appel, Lotte, et on vous souhaite une belle journée au Congo.
RFI à Brazzaville, 93.2 FM.
Et une autre question tout de suite, c'est Mariam de Dakar qui nous la pose par note vocale.
Bonjour Priorité Santé, moi c'est Mariam Diop, je suis mère de 3 enfants, l'aîné a 15 ans, le second a 12 ans et demi et le tout dernier a 6 ans et demi. Alors mes enfants ils sont trop attachés aux écrans, surtout les écrans de téléphone et quand tu les appelles pour manger, ils te disent qu'ils n'ont pas faim, mais si tu insistes, ils vont manger mais ils ne vont pas manger comme il se doit parce qu'ils ont hâte de retourner sur les téléphones. Et ça, ça me préoccupe beaucoup. Ils passent moins de temps sur leur cahier. Quand tu leur demandes de réviser, la fille, elle peut faire 45 minutes, elle te dit qu'elle a fini, elle fait 3e. Et le garçon qui fait 5e, lui, il ne fait pas plus de 30 minutes, il te dit qu'il a fini de lire ses leçons. Mais lorsqu'ils sont sur le téléphone, ils peuvent passer 2 heures à 3 heures de temps. Du coup, à la maison, je n'ai pas de connexion, je n'ai pas de Wi-Fi. J'ai juste fait ça pour qu'ils ne puissent pas passer leur temps à se connecter, mais ils ont pris le code chez mes voisins, code Wi-Fi. C'est avec ce code-là qu'ils se connectent sur mes téléphones. Donc, ce que j'ai aussi oublié de signaler, c'est que dès que je récupère mes téléphones pour qu'ils fassent autre chose, ils vont aller plutôt regarder la télé. Donc, ils passent presque plus de temps sur les écrans que sur autre chose. J'ai essayé d'acheter des petits livres, des petits romans, mais ils ne s'intéressent pas trop à ça. Alors, cela m'inquiète beaucoup. Parce que sur le téléphone, franchement, je ne vois pas ce qu'ils apprennent.
Je voudrais savoir si les écrans peuvent avoir des conséquences ou un impact sur la santé mentale. Merci beaucoup.
Merci à vous, Mariam, pour ces questions. Docteur Mamaïta Assek, est-ce que vous voulez réagir d'abord et moi, je vous poserai des questions ensuite.
Déjà, je voudrais saluer son engagement parce qu'elle a dit avoir acheté des livres
tout
pour essayer de décrocher un peu le... des enfants des écrans. Donc ça, c'est déjà un bon début et il faudra persévérer. Parce que c'est clair que quand ils sont trop exposés comme ça, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on pourra rétablir les choses. Donc c'est déjà de petites astuces comme ça, leur payer des livres et puis quand c'est l'heure de manger, essayer de faire un repas familial, un repas de groupe et on éteint tout ce qui est écran. Et au moins, ça, on est sûr que pendant au moins les 30 minutes que vont durer les repas, chacun va se concentrer sur l'autre et non sur l'écran. Donc ça aussi, c'est une deuxième astuce que je peux lui proposer. Après aussi, il faut mettre des limites par rapport au temps d'écran, comme je l'ai dit. Leur donner des temps limités, le temps d'écran, et au-delà desquels, c'est soit aller lire un livre, ou qu'ils, comme ils sont 3, je pense qu'ils peuvent au moins discuter ensemble, parce que ça fait une bonne petite communauté. Donc, prendre le temps d'échanger entre eux, voilà.
Recréer du lien, en fait.
C'est ça, exactement.
Mais comment on fait quand on a des préadolescents ou des adolescents à la maison qui se rebellent, parce qu'on le sait, c'est pas évident de supprimer le téléphone ou la tablette des mains d'un adolescent. Comment les parents peuvent s'y prendre?
Ben, c'est clair que pour cette tranche d'âge-là, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est des êtres, disons, en quête d'identité, en quête d'autonomie. Donc, rapidement, il y a ce conflit qui s'installe. Donc, je pense que la meilleure technique, c'est la communication. Parce que, comme j'ai dit, ils sont capables quand même de comprendre certaines choses. Si on leur explique bien les dangers de l'écran, je pense qu'ils sont capables de se conformer à ce qu'on leur dit. Donc, première technique, c'est la communication. Et après, c'est leur donner un temps d'écran. Après, peut-être reprendre les téléphones, même si voilà, ça risque de les frustrer un peu. Mais vraiment, la base, c'est la communication.
Et les responsabiliser aussi, peut-être.
Exactement, les responsabiliser. Et là, d'abord, il faut qu'ils comprennent déjà les dangers de ce qu'on leur interdit.
Exactement, parce que j'allais en venir à cet élément. Parfois, le danger, ce n'est pas forcément que l'écran en lui-même, mais le contenu, en fait, de ce que ces jeunes regardent.
Le contenu est très important, hein, parce que parfois, on n'a pas le contrôle de ce qu'ils regardent. Ils prennent le téléphone, ils vont dans la chambre, ils s'enferment, donc on ne sait pas qu'est-ce qu'ils regardent. Donc là, c'est doublement problématique. Un, il y a l'écran, et deux, il y a le contenu. Donc parfois, il y a des petites astuces sur les téléphones, les codes où on peut avoir accès à ce qu'ils regardent. C'est un moyen de surveillance. Mais vraiment, il faut beaucoup les sensibiliser de tous les dangers qu'il y a par rapport au contenu sur Internet.
Et là, justement, comment les parents peuvent s'y retrouver? Parce qu'ils sont parfois démunis, dépassés par ces outils. Comment vous pouvez conseiller les parents qui nous écoutent?
Bon, déjà, tout le monde est au courant des incidents que les contenus téléphoniques ont. Donc déjà, s'ils ont connaissance de ces dangers et qu'ils donnent des exemples, leur dire que voilà, celui-là, il a fait ça, ça a fini par une catastrophe et tout. Déjà, je pense que c'est la seule, disons, façon qu'on peut avoir, hein. C'est leur expliquer, leur mettre des exemples, leur dire que si tu fais ça, tu vas finir par ça ou ça, et je pense qu'ils seront aptes à comprendre quand même.
Donc expliquer plutôt que se fâcher. Un autre élément aussi dans ce témoignage, on entend que beaucoup, que les enfants de Mariam délaissent la lecture. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez remarqué à Dakar?
Bien sûr, les enfants ne lisent plus, hein. Ils ne lisent plus, ils sont toujours sur leur téléphone, ils n'ont plus d'activité en rapport direct avec leur environnement. Ils ne lisent plus, ils ne jouent plus avec les jouets classiques qu'on avait avant. Donc tout se fait à travers l'écran. Et ça, ça risque vraiment de poser un gros, gros problème.
Donc il y a peut-être aussi un enjeu à l'école de ce côté-là qui peut se poser.
RFI à Abidjan, 97.6 FM.
Et on accueille notre prochaine auditrice, c'est Léa qui nous appelle de Côte d'Ivoire. Bonjour, bienvenue.
Bonjour.
On vous écoute, Léa.
Oui, j'avais une préoccupation. Moi, mon fils, déjà dès l'âge de 18 mois à 2 ans, il n'avait pas goût à la nourriture solide. Donc du coup, pour lui faire accepter ça, ou bien pour qu'il le mange, on lui donnait les écrans, donc du coup, il ne savait pas qu'il était en train de manger. Mais sauf que cette habitude-là, du coup, elle lui est restée. Et quand il veut manger, il veut les écrans. Et on a essayé quand même de canaliser cela parce qu'on a des codes sur nos téléphones. On a aussi acheté des comptes et puis des jeux, des puzzles, des jeux créatifs qu'on essaie de faire avec lui pour l'éloigner le plus des écrans. Donc, ce que j'aimerais savoir, c'est si les écrans ont un impact sur le cerveau des enfants et surtout sur leur vue. Parce que moi, c'est ce que je crains. C'est pour ça que, le plus possible en tout cas, j'essaie de réglementer les écrans qu'il a ou bien son, l'utilisation des écrans.
Alors Léa, déjà, j'ai une première question. Quel âge a votre garçon, je crois? C'est un petit garçon.
Il a 4 ans maintenant.
Il a 4 ans maintenant, donc est-ce qu'il va à l'école?
Oui.
Et comment ça se passe à l'école?
Bon, à l'école, il n'y a pas de problème. Ça va bien, il fait ses exercices. Mais c'est quand si j'ai remarqué qu'il y a un manque de concentration. Quand il fait ses exercices, j'éteins tout ce qui est écran. Il n'a pas droit aux écrans. Mais il n'est pas très, très concentré.
Donc, ça veut dire que vous imposez déjà des limites?
Oui.
Mmh. Et donc, vous avez peur pour les yeux, pour le cerveau, parce que vous avez déjà remarqué des signes en dehors des problèmes de concentration? Des choses qui vous inquiètent?
Non, pas qu'il m'inquiète, mais en fait, vraiment, moi, mon objectif, c'est de l'éloigner le plus, pour ne pas qu'il ait trop, trop contact avec les écrans.
Et quand vous dites qu'il a des problèmes de concentration, qu'est-ce que ça veut dire? Que quand vous lui parlez, il ne vous entend pas, il ne vous répond pas, ou il ne peut pas rester longtemps sur une activité en particulier?
Quand il est sur les écrans, quand tu lui parles, il faut au moins répéter ça au moins 2 fois avec insistance et un peu fort, de manière forte, pour qu'il puisse prendre conscience qu'il y a quelqu'un qui lui parle. Ou bien quand tu le lui enlèves des mains, il commence à crier, il commence à taper, il n'est pas content, il commence à pleurer, tout ça.
D'accord, donc il se met en colère si vous supprimez les écrans dans lesquels il est absorbé, en fait.
Voilà.
Docteur Mam Aitaïsek, je vous donne la parole.
Merci beaucoup. Donc, par rapport à l'enfant de Léa, donc par rapport à ses yeux, effectivement, l'exposition prolongée aux écrans, ça peut avoir un impact. Déjà, quand ils sont concentrés sur l'écran, ils ne clignent pas beaucoup des yeux. Et quand ils ne clignent pas beaucoup des yeux, l'œil, il devient sec. Donc ça, déjà, c'est un premier problème. Parce que l'œil, il a besoin de s'hydrater pour bien remplir sa fonction. Après, il y a la lumière qui est là. Trop de lumière, ça peut faire accélérer, disons, le vieillissement des structures de l'œil. Donc ça aussi, c'est un deuxième danger. Et troisième élément, il y a aussi l'exposition, ça peut faire diminuer la production d'hormones de l'endormissement, du sommeil, disons. Donc, je ne sais pas si Léa, votre enfant, il a des problèmes pour s'endormir ou pas.
Léa. Bon, pas très souvent, pas pour l'instant, parce que, comme j'ai dit, je régule vraiment.
Donc là, je vous encourage vraiment par rapport à cette régulation, parce que là, il a 4 ans, vous avez dit?
Oui.
Oui.
Donc 4 ans déjà, vu le temps que vous avez dit qu'il passe, c'est déjà beaucoup trop. Hein. Donc comme j'ai dit, les enfants de 3 à 6 ans, c'est moins de 30 minutes, voire 20 minutes même par jour. Et c'est la télé, hein, c'est pas la tablette.
Alors il y a un élément aussi qui est intéressant dans le témoignage de Léa, c'est la dépendance qui a été instaurée très tôt au moment de manger. Donc on comprend, on imagine à cause de cette dépendance qu'il y a des crises de colère maintenant. Est-ce que c'est bien important justement de dissocier le temps du repas et le temps d'écran? Est-ce que les conséquences peuvent être différentes si on parle de petits enfants ou de préadolescents?
Oui, pour les enfants, effectivement, ça pose beaucoup de problèmes. Parce que comme elle, pour le cas de Léa, elle lui a donné l'habitude de manger que en présence d'écran. Donc là, c'est une habitude qu'il faudra essayer de rectifier, déjà. Et s'il se concentre sur ce qu'il regarde à l'écran, il va pas se concentrer sur ce qu'il mange. Donc peut-être vous avez l'impression qu'il mange, mais c'est sûrement pas de la meilleure des façons. Parce qu'il ne peut pas se concentrer et sur ce qu'il mange et sur ce qu'il regarde.
Et une des conséquences à long terme sur les plus grands, c'est aussi le surpoids, l'obésité à terme.
Bon, c'est surtout la sédentarité et avec les conséquences. Parce que les plus grands, comme ils sont un peu plus autonomes, par exemple, ils peuvent avoir leur téléphone et rapidement, ils peuvent manger une poudre de glace ou une tablette de chocolat sans même s'en rendre compte. Donc, ils le font et après, ils restent sur place. Donc, ils ne bougent pas. Mmh. Alors que l'activité physique, c'est très important.
Pour une bonne santé. Merci Léa pour votre appel. La parole à une dernière auditrice de Priorité Santé. Et cette fois, on reste en Côte d'Ivoire. On est en ligne à Abidjan avec vous, Alida. Bonjour. On vous écoute.
Alors, donc, moi, c'est Alida, je vous appelle de la Côte d'Ivoire. Effectivement, aussi, j'ai une expérience avec l'exposition aux écrans des enfants. Il s'agit de mon fils qui a 9 ans, qui est autiste. Il a été diagnostiqué autiste. Et dans la recherche des solutions, je dirais, j'ai compris un peu trop tard ou trop tôt que l'exposition aux écrans aussi ralentissait, on va dire, son développement. Donc, il m'a fallu lui faire une espèce de cure. Malheureusement, je n'ai pas pu à ce jour retirer les écrans à 200% de son environnement, mais j'ai plutôt trouvé le moyen d'en faire un outil d'apprentissage et de réguler les heures durant lesquelles il est exposé aux écrans.
C'est-à-dire un outil d'apprentissage?
Alors, quand j'ai su que les écrans n'étaient pas bons pour lui, au lieu qu'il soit devant les écrans pour regarder des vidéos en boucle, j'ai plutôt utilisé cela pour lui apprendre, par exemple, à compter, à connaître les couleurs. Donc, ça part par le téléchargement de certaines applications qui aident les enfants à lire, à compter, à reconnaître les objets, à pouvoir les identifier. Donc, déjà, j'ai commencé par ça. Autant s'il ne peut pas se passer des écrans, autant qu'il apprenne quelque chose. Et quand il a commencé maintenant la scolarisation, en semaine, du lundi au vendredi, quand il y a école, ben, il n'a pas droit aux écrans. Les week-ends, je m'arrange à ce qu'il soit devant la télévision, ne serait-ce que 2 heures par jour, et le reste du temps, je trouve des activités à faire pour l'occuper, pour travailler sa motricité et tout ça.
Et comment ça s'est passé, cette transition ?
Très difficile. Ça a été très, 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 très difficile. C'est un peu comme quand vous avez un drogué que vous mettez en désintoxication. C'était hyper difficile parce que c'était des crises d'angoisse. Il veut l'écran, il veut la tablette, on lui dit non, tu n'y as pas droit. Il veut le téléphone, on lui dit non, tu n'y as pas droit. Donc, c'était des cris, c'était des pleurs. Il faisait des choses franchement très ridicules, on va dire. Il va se mettre à marcher à 4 pattes, il va ouvrir le réfrigérateur au moins 10 fois, histoire de faire des choses pour vous en être exténué et dire, bon, écoute, tiens ta tablette et puis basta.
Il a testé vos limites, il a essayé de vous pousser à bout, en fait.
Voilà, il essaie de me pousser à bout pour que je cesse. Mais c'est aussi difficile en tant que maman de résister, justement,
bien
parce
sûr.
Qu'il faut résister. Voilà, donc quand il s'est rendu compte au bout de 2 semaines, 3 semaines que je fais tout ça, mais ça ne bouge pas, il est obligé maintenant d'être réceptif aux nouvelles règles. Voilà. Mais ça a été très, très difficile.
Et aujourd'hui, alors, comment il va ? Est-ce que vous avez constaté des progrès ou des différences ?
Ah oui, beaucoup de progrès même. Je veux dire, il arrive aujourd'hui à vivre, je veux dire, à faire 24 heures sans écran. Il nous arrive parfois d'avoir des moments où on va à l'église, où après on va saluer les parents et tout, pour sa socialisation. Bien sûr, il réclame, mais je lui dis non, Noah, tu ne peux pas avoir ta tablette là maintenant. Il faut passer du temps avec tes frères, avec tes cousins et tout.
Et est-ce que vous lui avez expliqué pourquoi, justement, moins d'écran ?
Non. Je n'ai pas vraiment. Parce qu'à cette époque-là, il n'était même pas encore à 50% de ses capacités de compréhension. Il avait à peine 3-4 ans quand on a su que c'était... c'était de l'autisme et qu'il fallait un réaménagement pour qu'il interagisse mieux avec son environnement. Je ne l'ai pas fait en tant que tel, mais j'ai trouvé le moyen de rendre ces séances devant le téléphone, la tablette un peu plus ludique. Voilà.
Docteur Mam Aïta Seck, je pense que déjà on peut féliciter haut et fort à Alida pour ses efforts et pour avoir réussi à transformer le quotidien et les écrans en support pédagogique.
Voilà, donc merci à Alida. Moi, j'avais juste une petite question pour elle. Est-ce que votre enfant, il est suivi par peut-être un pédopsychiatre ou...
Oui. Il est suivi par un pédopsychiatre et aussi un orthophoniste. Il va dans une école spécialisée qui met à sa disposition ces services-là. Donc, au sein de l'école, il y a un pédopsychiatre, il y a un orthophoniste et tout ça.
D'accord. Mais est-ce que c'est le pédopsychiatre qui vous a dit que c'est à cause des écrans qu'il était autiste?
Non, ce n'était pas à cause des écrans, parce que jusqu'à ce jour, personne ne peut vraiment définir, identifier les causes véritables de l'autisme. Mais quand on a posé le diagnostic, le pédopsychiatre m'a recommandé pour sa rééducation de le tenir loin des écrans, parce qu'il avait un véritable problème de socialisation et ça retardait aussi son langage. L'exposition aux écrans était une des causes de son retard de langage. Parce que quand il est devant la tablette, vous allez lui dire bonjour, il ne va pas répondre. Il ne s'intéresse à rien à part sa tablette.
En fait, c'était juste la petite nuance que je voulais lever. Parce qu'il y a beaucoup qui pensent que les écrans peuvent être à l'origine de l'autisme, alors que c'est deux spectres diamétralement opposés. Donc les écrans n'ont rien à voir avec l'autisme. D'accord ? Et ensuite, les écrans peuvent avoir un impact peut-être sur lui, parce que peut-être c'est ce qu'il a eu en premier sous la main, disons. Parce que si vous lui avez donné l'écran assez tôt, c'est normal qu'il soit un peu plus attentif à cet élément-là plutôt qu'à un autre. Parce que les autistes, on voit que parfois ils n'aiment pas être contrariés. Mais là, il s'est retrouvé plus contrarié par le téléphone parce que c'est ce qu'il avait en premier sous la main.
Et donc tout un jeu, on comprend bien, c'est d'introduire graduellement les écrans. Je suis désolée, je suis obligée d'abréger cette conversation qu'on pourra retrouver certainement sur les réseaux sociaux si vous voulez continuer à discuter sur la page de notre émission Priorité Santé. Docteur Mama Itasek, peut-être pour conclure, le mot de la fin, ne pas culpabiliser les parents et surtout dire que la meilleure application finalement pour leurs enfants, eh bien c'est eux.
C'est ça. Donc les écrans, on n'est pas prêt de s'en séparer déjà. Donc la meilleure attitude, c'est de pouvoir bien les gérer et bien mettre les limites pour limiter les effets nocifs qu'ils ont, autant pour nous adultes que pour les enfants.
Merci à toutes pour votre participation. Un grand merci pour vos conseils et votre écoute. Docteur Mama Itasek, pédiatre, médecin, capitaine et assistante des hôpitaux des armées à l'hôpital principal de Dakar. Et Alida, vous avez choisi l'artiste avec lequel on va se quitter, vous à Abidjan et nous dans les studios à Paris. Tout de suite, c'est « Suis-moi » de Fally Ipupa sur RFI.
T'as choisi le meilleur des hommes, oui c'est vrai que je peine à te combler. Je me bats pour faire la meilleure des sommes, mais ma femme elle veut juste me voir entrer. Le monde veut me voir chanter, si je pouvais je ne chanterais que pour toi. Ce soir je veux pas y aller, ou pas sans toi. T'as fait de moi un homme, tes douleurs sont les miennes. Réclame-moi et je donne bébé, j'ai ton amour dans les veines.
Notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe, Ophélie Lassen, Louis Caledec et Didier Bleu à la réalisation. Lundi, vous retrouverez un reportage de Charlie Dupio sur la prise en charge de l'autisme au sein de l'association Le Silence des Justes à Paris et en Seine-Saint-Denis. Rendez-vous à 9h10, temps universel. Et en attendant, vous pouvez réécouter notre émission en ligne sur RFI.fr. Et d'ici là, prenez soin de vous et bonne journée sur RFI.
Vous avez suivi Priorité Santé avec le groupe Sounou, présent dans 17 pays, qui depuis 25 ans met le client au centre de tout.